France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je vous propose de commencer cette nouvelle année que je vous souhaite évidemment très musicale avec Rameau. Excellent début d'année, direz-vous, et c'est aussi mon avis. Mais je vous propose de nous intéresser à un Rameau un peu moins connu, moins vu et moins entendu que celui de ses tragédies lyriques. Oublions donc un temps Hippolyte Théaricie, les Boréades, voire Platée, et tendons une oreille à Anacréon, la Guirlande, Daphnis et Églée. Autant d'actes de ballet que le concert et le disque tendent à oublier, mais que grâce à mes invités, Raphaël Legrand et Rémi-Michel Le Trottier, nous allons mieux connaître. En un acte, les actes de ballet de Jean-Philippe Rameau, 1745-1757, avec Raphaël Legrand et Rémi-Michel Trottier, publié chez Adam Musicae. Un début tout en douceur, c'est la ritournelle qui ouvre la guirlande de Jean-Philippe Rameau dans l'enregistrement des Arts Florissants, dirigé par William Christie. Bonjour Raphaël Legrand.
Bonjour.
Et bonjour Rémi-Michel Trottier.
Bonjour.
Vous êtes donc les responsables de cette publication collective, hein, en un acte, les actes de ballet de Jean-Philippe Rameau, qui vient de paraître chez Edam Musicae, et qui est le résultat donc d'un travail collectif. C'est 10 séances de travail qui ont eu lieu en 2014, à la Sorbonne, autour de Rameau, Raphaël Legrand.
En effet, c'était l'année Rameau qu'on a dignement fêté à la Sorbonne, en 10 séances, mais en fait, la séance consacrée aux opéras en un acte ne représentait qu'une seule séance.
D'accord.
Et donc, il y aura une suite.
Neuf autres volumes à suite à suivre, du coup, non, peut-être pas.
Les séances étaient nettement plus courtes et donc il y aura deux volumes probablement.
D'accord. Peut-être avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, faut-il redéfinir ou définir pour nos auditeurs acte de ballet, qu'est-ce que ça signifie? Qui veut répondre? Rémi-Michel Trottier.
C'est une question un peu complexe. Et
ça fait l'objet d'ailleurs d'un des chapitres du livre.
C'est l'une des questions du livre et nous sommes gré à Thomas Souris de nous avoir éclairé là-dessus en vérifiant dans le détail un certain nombre de choses. Au départ de notre idée, l'acte de ballet, c'était un ballet en un acte qui pouvait avoir une existence autonome et qui même avait eu vraisemblablement une existence autonome.
Donc a priori une œuvre brève, on va dire.
Une œuvre relativement brève. Mmh. Une grande tragédie telle qu'on les connaît, c'est 5 actes plus un prologue. Voilà, c'est 6 fois plus court, ça ne dure qu'un acte.
Oui.
Voilà, et on s'est aperçu que bien existence autonome, là il y a un problème parce que la plupart de ces œuvres soit ont été conçues pour s'inscrire dans un cadre plus grand, mais finalement ça ne s'est pas fait, donc l'œuvre s'est retrouvée toute seule. Et même quand elle a été conçue par elle-même, elle n'a jamais été présentée seule. On ne jouait pas un opéra en un acte comme ça, ou très rarement on jouait de longues soirées. On jouait une comédie, après on jouait un petit opéra, ou on jouait une tragédie, après on jouait un petit opéra. Donc voilà, ces situations, le fait que ces œuvres ont été utilisées diversement à différents moments, en les reliant avec d'autres œuvres, en les concevant comme potentiellement lié à d'autres, mais finalement autonome, fait que ce corpus est difficile à saisir. On avait fait une sélection de 12 ouvrages qui nous paraissaient répondre à la question. Enfin, plutôt 11, puisqu'on savait que le 12e, qui est l'Anacréon, écrit avec Louis de Cahuzac, était par définition déjà intégré dans un opéra-ballet, mais il avait aussi été joué tout seul. Et dans le livre, une partie qui permet de saisir cette complexité, c'est la chronologie que finalement nous avons pris soin de faire, pour préciser toutes les représentations de ces petits ouvrages, et qui montrent qu'ils étaient rarement autonomes, rarement seuls, mais en même temps, on peut les prendre seuls et étudier le contenu sans forcément se soucier de ce qu'il y avait autour. C'est aussi une façon de l'analyser.
Mais est-ce que c'est la raison que vous avez avancée qui fait qu'aujourd'hui, c'est une musique qu'on entend finalement assez rarement ?
Peut-être, je pense que, enfin bon, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans l'histoire de la pensée critique sur Rameau, ces ouvrages ont été effectivement négligés pendant assez longtemps. Les premiers auteurs qui ont écrit sur Rameau se sont beaucoup concentrés d'abord sur les tragédies, qui sont les plus connues. Les opéras-ballets, dont certains sont quand même assez connus, les Indes galantes étaient très jouées, très enregistrées et bien connues. Et puis ce corpus-là était toujours mis un petit peu à part. Alors ça se comprend, c'est aussi des œuvres qui n'ont pas eu toujours un destin très heureux. Il y a des œuvres qui n'ont même pas été jouées ou qui ont été jouées qu'une fois, on les a tout de suite abandonnées. Mais nous, ça nous paraissait dommage. Et l'un des principes de l'atelier Rameau, du séminaire dont on parlait, c'était justement d'aller chercher les œuvres les moins connues, de pas prendre l'œuvre qui se présentait de façon évidente, mais de prendre celle qui était un peu, passez-moi l'expression, de derrière les fagots, auxquelles on n'aurait pas pensé de prime abord, et de se dire, mais il y a quand même du Rameau là, il y a quand même de la musique, et de fait, on n'a pas été déçus avec ces œuvres-là.
Raphaël Legrand.
Et finalement, une fois qu'on a réuni ces 12 œuvres, on a décidé aussi de publier les livrets. On s'est adjoint la collaboration de Laura Nodex, qui est une spécialiste de littérature, et Thomas Souris, qui est musicologue. Et tous les quatre, nous avons fait l'édition critique de tous ces ballets, donc le texte des ballets qui est en annexe du livre. Et là, tout d'un coup, eh bien, il y a eu quand même un genre qui a commencé à surgir, une cohérence, une idée qui était celle d'un acte court, souvent avec une dimension pastorale, mais pas toujours. Et finalement, Rameau qui aimait bien avoir des textes assez contrastés pour pouvoir créer des musiques très diverses, en très peu de temps, arrivait à bâtir un monde très divers.
Grâce aux chanteresses, m'arrache malgré moi des pleurs et des soupirs. Dieu, quel égarement!
Cyril Dubois dans le rôle de Pygmalion, les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. C'était un extrait de Pygmalion de Jean-Philippe Rameau. Raphaël Legrand, vous nous avez évoqué le caractère pastoral de l'essentiel des actes de ballet de Rameau. Avant qu'on approfondisse justement le caractère de ses œuvres, pour qui et dans quelles conditions étaient-ils composés ces actes de ballet ?
Alors, plusieurs de ces actes de ballet ont été des commandes de la cour. La date de 1745, c'est celle aussi de l'année où Rameau a été nommé très tardivement compositeur de la cour. Et donc, il va écrire un certain nombre de ses actes pour les soirées de Fontainebleau et pour toute la cour, mais ça reste quand même un cercle assez sélect dans le très très beau théâtre de Fontainebleau. Et donc, mélangé avec des pièces de théâtre et autres. Mais un certain nombre de ces pièces ont été créées, au contraire, à l'Académie royale de musique, dans des soirées de fragments, comme on dit, ou finalement plusieurs actes divers, issus de divers opéras, ou créés pour la circonstance, se succédaient dans des spectacles variés.
Et on connaît le programme à chaque fois de ces soirées, savoir quelles étaient les œuvres qui accompagnaient, qui entouraient ces actes de ballet de Rameau.
Oui,
Michel Trottier.
Il y avait effectivement, on a en général les programmes de la cour, et on sait ce qu'il y avait avant ou après. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les circulations entre ces deux lieux. Il y a des œuvres qui sont créées à la cour, mais qu'ensuite on reprend à Paris. Un très bon exemple, c'est La Princesse de Navarre, qui est créée pour le mariage du dauphin, et qui est repris à Paris. Mais à Paris, on se dit, oh là là, c'est pas possible de reprendre ça tel que c'était, de faire une grande comédie parlée avec des intermèdes musicaux. Donc on demande à Rousseau de mettre ça ensemble, d'écrire des récitatifs pour en faire un acte de ballet, et probablement d'ailleurs une ouverture. Enfin, il y a un article très intéressant dans notre livre de Julien Dubruc qui montre...
Qui est l'auteur de l'ouverture.
Voilà, l'ouverture de La Princesse de Navarre, en fait, n'est pas de Rameau, elle est de Rousseau, et il a établi ça très clairement. Mais il y a aussi des œuvres qui font le trajet inverse, qui sont créées à Paris et qui ensuite sont reprises à la cour.
Et est-ce que la destination donc, de ces actes de ballet a-t-elle eu une influence sur l'écriture, sur le style de Rameau? Est-ce qu'il adaptait sa musique à un format réduit, ou est-ce qu'on retrouve clairement le même langage?
Musicalement, je trouve qu'il n'y a pas une différence très forte. Je pense que, en revanche, dramaturgiquement, c'était évidemment la scène de Fontainebleau était plus petite. On pouvait moins mettre de machines. Enfin, donc il y avait un côté visuel qui devait être un peu différent. Mais non, la musique de Rameau est la même. C'était un homme qui était très centré sur son art, ses idées, qui se laissait peu influencer. Il était un peu rugueux de caractère,
pareil,
et qui n'était pas très courtisan.
Pareil, oui. Mais le ton quand même est plutôt léger de ses œuvres, en majorité.
En effet, un ton léger, mais parfois avec des moments de tension. Mais simplement, comme le format est très court, la tension est brève et la détente intervient à la fin. Il n'y a pas de fin tragique, mais rarement dans les opéras de Rameau, par ailleurs. La pastorale est là, mais il y a aussi des moments de réflexion sur la politique, par exemple, dans Sybaris, sur le livret de Marmontel, où on voit une reine et un roi discuter sur le bon gouvernement. Est-ce qu'il faut le bonheur des peuples ou est-ce qu'il faut la guerre?
Alors, donc, peut-être un écho des pensées de l'époque. Et d'un point de vue artistique, est-ce que ces actes de ballet peuvent trouver un pendant dans la peinture peut-être de l'époque? Est-ce qu'on retrouve un style, je dirais, rocaille ou entre grosses guillemets, dans cette musique plus que dans les tragédies lyriques ou d'autres œuvres de Rameau? Raphaël Legrand.
Oui, je pense que Rameau est rocaille. C'est vraiment une idée qui me suit depuis longtemps. Mais rocaille avec ce côté... évidemment, intégrant la pastorale. Alors, c'est parfois difficile de faire un parallèle exact entre le visuel et le musical, mais enfin, il y a aussi l'arabesque, il y a aussi la ligne mélodique de Rameau qui ressemble un petit peu à ces feuillages qui s'intègrent dans les architectures. Et puis, évidemment, les sujets qui sont tirés en général de la mythologie, d'Ovide, ou parfois de personnages ayant sans doute existé, comme le poète Anacréon, se retrouve évidemment dans la peinture d'un fragonard, d'un boucher.
C'est ça, oui. Alors, vous nous parliez de commande Raphaël Legrand. Est-ce que le librettiste était imposé, Rameau? Comment est-ce que ça se passait?
Ça, c'est un grand mystère. Excuse-moi, je prends la parole parce que je me suis beaucoup posé la question. C'est un grand mystère, en fait, de savoir exactement comment ça se décidait. L'image, personnellement, que j'en ai, mais ça n'engage que moi, c'est qu'il y avait... beaucoup de communication entre ces différentes personnes et des projets qui quelquefois mettaient très longtemps à s'élaborer. Des gens qui intervenaient sans forcément qu'on s'en rende compte sans que ce soit forcément au grand jour. Par exemple, je me suis convaincu, à travers un certain nombre d'exemples, que Voltaire est extrêmement présent tout au long de la carrière de Rameau. Il y a énormément d'idées théoriques, spéculatives de Voltaire, qui vont finir par trouver un écho dans les réalisations concrètes de Rameau avec d'autres librettistes.
Il a pu influencer. Et pas seulement dans leurs projets avortés.
Sans doute, il a sans doute influencé Leclerc de la Bruyère, mais il a aussi sans doute vraisemblablement beaucoup influencé Cahuzac, même si les Cahuzaciens ne sont pas toujours prêts à le reconnaître. Voilà. Après, dire ponctuellement, les grands librettistes qu'on retrouve, il y a Marmontel, évidemment, qui est très présent. Et puis, sur des ouvrages comme ça qui sont faits pour la cour, il faut aussi que les poètes soient agréés par la cour, en fait, qu'ils soient bien vus sur place. C'était d'ailleurs peut-être pas forcément le cas de Voltaire aussi, soit dit en passant.
Est-ce que, justement, ces poètes pouvaient indifféremment écrire le livret d'une tragédie lyrique et d'un acte de ballet, ou c'était des poètes d'origine, de styles totalement différents?
Certains ont un peu leur spécialisation, mais non, je pense que globalement, on les voit un peu dans tous les genres, en général. Ça dépend de la commande et ça dépend de ce qu'il y a du travail à faire.
Oui, on peut prendre l'exemple de Louis de Cahuzac, qui a été un des collaborateurs les plus étroits de Rameau, et qui a écrit aussi bien Zoroastre, qui est vraiment une grande tragédie avec la bataille du bien et du mal, et puis Anacréon, où l'on voit le poète dans une situation plutôt de comédie, à la limite de la comédie. Thierry Félix dans le rôle d'Anacréon, Annick Massis dans celui de l'amour. Les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski. C'était un extrait d'Anacréon de Jean-Philippe Rameau. Anacréon que vous évoquiez précédemment, Raphaël Legrand, mais il faut préciser qu'il y en a deux, hein. On l'a dit tout à l'heure. Donc, un qui est vraiment une œuvre indépendante et une autre, qui s'intègre donc dans les surprises de l'amour, c'est ça. Donc, on vient d'entendre un extrait de l'Anacréon de Cahuzac, sur un livret de Cahuzac, et qui était autonome et qui a été joué à Fontainebleau. Et puis l'autre Anacréon, en fait celui qu'on connaît mieux, qui a été enregistré plus tôt au XXe siècle que les autres, et c'est celui qui a été écrit sur un livret de Pierre-Joseph Bernard, dit Gentil Bernard, voilà, et qui en fait a été ajouté à un opéra à la création, donc n'a pas vécu vraiment une vie autonome. Mais sur l'Anacréon de Cahuzac qu'on vient d'entendre, il faut dire un mot, parce que vous avez peut-être, les auditeurs et auditrices ont peut-être quand même reconnu quelque chose qui était, nous rappelait quand même un peu les quatre saisons de Vivaldi, l'été, le sommeil, et puis la tempête. Et donc
c'est fortuit?
Non, c'est Graham Sadler qui a vraiment souligné de façon très pertinente cet emprunt. Un emprunt qui devait certainement pas être fortuit. Nous sommes en 1754, c'est juste après la querelle des bouffons. Mmh. On a accusé Rameau d'être un des champions de la France. Il y a évidemment un clin d'œil.
Mmh. Effectivement, on peut lire des lignes absolument passionnantes sur ce sujet dans votre livre. Et est-ce que cette musique de Vivaldi à l'époque était vraiment... bon, on sait qu'elle était connue, mais est-ce qu'il y a eu d'autres emprunts comme ça à l'époque, dans la musique française, de musique de Vivaldi, ou est-ce que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel?
Non, elle était très connue. En fait, elle était jouée au concert spirituel, donc le public parisien la connaissait. Alors là, il me semble qu'il y a un motet qui a été une adaptation du printemps. Je ne sais plus si c'est Corrette.
C'est Corrette, dans mon souvenir. Oui.
Donc c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de la culture commune, un petit peu comme aujourd'hui. D'ailleurs, si on connaît de la musique classique, c'est d'abord les quatre saisons de Vivaldi.
Ouais. Et ce personnage, ce poète, Anacréon, a été, j'ai découvert en lisant votre livre, dans ces années 1750, était finalement un sujet. Il y a eu quoi, 5 ou 6 œuvres qui traitaient de ce personnage, Raphaël Legrand?
Plusieurs œuvres qui traitaient de ce personnage, des rééditions et des traductions de ses poèmes, des tableaux. Et en fait, cette période de la fin du siècle de Louis XV est un peu anacréontique, dans la mesure où ce poète qui aimait le vin, qui aimait l'amour, que Cahuzac représente même endormi après avoir un peu trop bu au moment du fameux sommeil, mais qu'il ne faut pas caricaturer non plus. C'est vraiment une sorte de vision assez hédoniste, assez épicurienne de la vie qui correspond bien à une période.
Qui correspond bien à une période, mais ce qui correspond également au caractère de ces actes de ballet, où là c'est pareil, il ne faudra pas schématiser.
Il y a un peu de tout quand même. C'est vrai que il y a des actes qui sont vraiment totalement dans l'espèce d'estompe de la pastorale, que le personnage d'Anacréon est un petit peu plus tranché finalement, avec sa personnalité assez forte comme ça. D'autres sont au contraire purement pastoraux, qui semblent un peu toujours la même histoire entre des amoureux très très jeunes qui découvrent l'amour, mais en fait qui brode sur un sujet connu, qui évoque pour le public de l'époque Virgile, beaucoup aussi d'éléments culturels, de culture commune à l'époque, et qui en fait brosse des tableaux extrêmement poétiques.
Et est-ce que pour les interprètes d'aujourd'hui, qui doivent donc jouer ces actes de ballet, est-ce qu'il peut avoir la même latitude que dans les opéras pour faire court, ou est-ce que de par leur format, ça implique peut-être, je sais pas, davantage de mesures, de nuances, de qu'est-ce que vous en pensez, Michel Trottier?
D'abord, je pense qu'on a peu d'exemples, parce qu'il y a quelques enregistrements, mais à la scène, je crois que ces œuvres ne sont pas encore véritablement revenues.
Ouais.
Et je suis pas persuadé de ça. Je pense qu'au contraire. D'une certaine façon, si vous voulez, une œuvre qui est relativement connue, vous pouvez vous mettre à transposer, à décaler. Voilà. Si vous jouez Hippolyte et Aricie et que ça se passe dans le métro londonien, comme on connaît l'histoire, on va s'y retrouver. Là, vous jouez si vous décidiez de jouer, je ne sais pas, les fêtes de Ramire, par exemple, voilà, œuvre très peu connue, ben, il faut peut-être mieux coller un petit peu à l'original, d'autant plus que c'est assez difficile de comprendre, de ne pas se tromper sur le sens de ces œuvres et le sens de ces livrets qui, à la première lecture, peuvent avoir l'air un petit peu simple, voire un petit peu bébête quelquefois. Et quand on regarde, évidemment, il y a tout un... plusieurs niveaux de lecture, toute une chose assez profonde qui est construite derrière ça. Donc moi, je m'en garderais personnellement. Si je devais le faire, je le ferais tout à fait comme c'est écrit.
Gaël Méchali dans le rôle de Zéphir, Rebecca Okenden dans le rôle de Flore, les arts florissants dirigés par William Christie. C'était un extrait de Zéphir, Amour soit le dieu de nos âmes. Est-ce que c'est un peu le résumé des actes de ballet de Rameau, Raphaël Legrand?
Oui, certainement.
Pas que, mais on a compris quand même.
Oui, ouais. On aime bien parler d'amour à cette époque. C'est le cas aussi dans les opéras-ballets de Rameau et même dans les divertissements des tragédies. L'amour finit toujours par s'introduire.
Ouais. Mais nous parlions effectivement du caractère très multiple, puisque ça convoque aussi différents arts, donc ces actes de ballet. Et votre livre également est un, je l'ai dit en introduction, un ouvrage collectif qui n'est pas uniquement un ouvrage de musicologie. Hein.
Oui, nous avons vraiment voulu réunir à la fois des spécialistes de musique, mais aussi de danse, de l'histoire de la danse, des littéraires. Il y a aussi certains aperçus, notamment sur Pygmalion, qui vont vers la philosophie avec l'intervention de Sarah Nancy. Et donc, de même que ces petits actes de ballet sont une sorte de condensé de tout l'art de Rameau, de même, nous avons pensé qu'il fallait vraiment de multiples regards pour l'aborder.
Multiples entrées aussi.
Oui. Et donc, il y a aussi donc toute une partie du livre avec l'édition des livrets qui est finalement de l'ordre de la littérature.
Très bien, merci beaucoup Raphaël Legrand, merci Rémi Michel Trottier. Je rappelle le titre de votre livre, En un acte, les actes de ballet de Jean-Philippe Rameau, 1745-1757, édité chez Adam Musicae. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.